voulait participer.
On montrait qu'on était de tout cœur avec l'équipe des enseignants, avec la famille, avec tous les élèves qui ont à vivre en ce moment des choses terribles. Ouais.
L'émotion à Conflans-Sainte-Honorine, 36 heures après l'attentat de Samuel Paty. Hier soir, les habitants se sont spontanément rassemblés devant le collège de ce prof d'histoire-géo, mort pour avoir enseigné les valeurs de la République.
D'autres rassemblements sont prévus cet après-midi. Un hommage national lui sera rendu mercredi, annonce l'Élysée, qui entend réagir vite. Emmanuel Macron réunit ses ministres lors d'un conseil de défense tout à l'heure.
Première soirée de couvre-feu hier pour 20 millions de Français. Ça ne veut pas dire une soupe et au lit. Certains ont trouvé la parade.
Ce couvre-feu, en tout cas, ne fait pas les affaires des théâtres, contraints de baisser le rideau beaucoup plus tôt que d'habitude, certains craignent pour leur survie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a eu les premières heures et on vous les a fait vivre sur Europe 1, celle du choc et de la sidération. Et puis très vite, le moment du recueillement. Spontanément hier, des anonymes se sont rassemblés un peu partout en France pour rendre hommage à Samuel Paty.
Ce professeur d'histoire assassiné pour avoir voulu défendre la liberté d'expression auprès de ses élèves après leur avoir montré des caricatures de Mahomet. Hier soir, devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, un hommage lui a été rendu. Nicolas Feldman était sur place pour Europe 1.
Je suis prof, je suis Samuel, au milieu d'un parterre de fleurs, de bougies, quelques pancartes rédigées au feutre noir. Sur certaines, on y devine l'écriture d'un enfant. Et c'est surtout pour cette génération, son fils et sa fille de 5 et 8 ans que Gaël veut s'exprimer.
On a la chance de vivre dans un pays qui a de belles valeurs, où on a la liberté normalement de pouvoir dire ce qu'on pense. Bien sûr, dans le respect, mais on a le droit de le dire et je trouve ça inadmissible que des gens remettent en question nos libertés alors que nos aïeux se sont battus et nous, c'est à nous de faire notre travail pour nos enfants.
Au milieu de toutes ces personnes qui ont bravé le froid, il y a ces habitants de Conflans-Sainte-Honorine. Natacha dépose sa bougie par terre.
On voulait participer, on montrait qu'on était de tout cœur avec l'équipe des enseignants, avec la famille, avec tous les élèves qui ont à vivre en ce moment des choses terribles. Ouais. Une ère de barbarie, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Quoi. Et puis on voulait communier avec tout le monde. Quoi.
Sur le livre blanc, Natacha rédige quelques lignes, un message pour les proches de l'enseignant. Le plus important, dit-elle, c'est que sa famille sente qu'elle n'est pas seule.
Un reportage de Nicolas Feldman pour Europe 1 et des appels au rassemblement ont été lancés dans plusieurs villes de France. Appel à se rassembler à 15h tout à l'heure à Paris, place de la République, mais aussi à Marseille, Lille ou encore Bordeaux.
S'agissant de l'enquête, 10 personnes sont ce matin en garde à vue, dont un prédicateur connu des services de renseignement et un parent d'élève.
Les deux hommes avaient publié ces derniers jours des vidéos sur les réseaux sociaux appelant à réagir. Ce sont peut-être ces messages qui ont poussé le tueur à passer à l'acte. Les explications de Chloé Triomphe.
On sait que le meurtrier avait vu au moins l'une de ces vidéos puisqu'il l'avait à son tour relayée sur son compte Twitter. Et à ce stade de l'enquête, c'est le seul lien qui le relie à sa victime. Car le jeune homme, né à Moscou, d'origine tchétchène, habitait à une centaine de kilomètres du collège, à Évreux, dans l'Eure. Il ne semblait d'ailleurs pas connaître le visage du professeur d'histoire-géo, Samuel Paty, puisqu'il a demandé à des élèves de lui montrer qui c'était. En revanche, sa détermination lors de son passage à l'acte ne fait aucun doute. Il a porté plusieurs coups à l'arme blanche à sa victime avant de lui trancher la tête avec un couteau de 35 cm. Et surtout, il avait préparé un texte de revendication retrouvé dans son téléphone portable. Il n'avait pas hésité à prendre une photo une fois son acte commis, ni à poster cette dernière sur les réseaux sociaux. Pourtant, rien dans ses antécédents ne laissait présager d'un tel acte, inconnu des services de renseignement, aucune condamnation judiciaire, simplement connu de la police pour des faits de dégradation et de violence quand il était mineur. Il avait obtenu le statut de réfugié avec ses parents il y a 10 ans, plusieurs de ses proches sont actuellement en garde à vue.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Face à l'émoi du corps enseignant, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a promis hier que l'État se tiendrait aux côtés des professeurs pour les protéger. Emmanuel Macron va réunir un conseil de défense cet après-midi. Plusieurs décisions pourraient être prises dans la foulée. Il faut en tout cas une réponse politique. Adrien Beck.
Répondre à la puissance symbolique de l'assassinat d'un professeur, voilà le premier enjeu pour Emmanuel Macron. Lui qui croit à la place de l'école dans l'émancipation des Français. C'est le sens de l'hommage national qu'il a voulu et qui se déroulera mercredi prochain. C'est pour cela aussi qu'il a appelé hier la famille de Samuel Paty. Pour cela encore qu'il s'est rendu très vite vendredi soir devant le collège du Bois d'Aulne. Façon de tenter une forme d'unité nationale qui pourrait bien vite être brisée. brisée par des accusations d'angélisme. Alors, le chef de l'État ne veut pas que des mots et de l'émotion. Il y aura du concret, de la fermeté. C'est le sens du Conseil de défense qui se tiendra cet après-midi à l'Élysée. Au menu, plus de protection pour les écoles, la lutte contre les discours radicaux sur les réseaux sociaux et celle, bien sûr, contre le terrorisme. Les milieux salafistes sont dans le collimateur de l'exécutif. C'est aussi comme cela que doit se comprendre le « ils ne passeront pas » voulu par Emmanuel Macron.
Explication d'Adrien Beck, quelle réponse apporter après cet attentat? On en débattra sur Europe 1 à 10h. Grand rendez-vous spécial avec plusieurs invités, l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Valérie Pécresse, Adrien Quatennens, Sébastien Chenu ainsi que l'avocat Thierry de Montbrial seront autour de la table.
Le Premier ministre, lui, veut une réponse ferme. Jean Castex le dit ce matin dans le journal du dimanche. Le journaliste David Revaud-Dallone l'a interrogé.
Le Premier ministre reste campé sur une posture d'extrême fermeté. Nous ne céderons rien, je cite, nous ne renoncerons jamais à ce que nous sommes, des citoyens libres et éclairés dans une République laïque et solidaire. On l'a interrogé d'ailleurs sur l'opportunité de publier ou de republier ou non les fameuses caricatures de Charlie Hebdo, et il nous l'affirme, je suis plus que jamais Charlie. Et puis, au chapitre des mesures à mettre en place dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il promet une stratégie de riposte encore plus ferme, plus rapide et plus efficace, et notamment quand un enseignant subit des menaces, même insidieuses. Et puis, quand on l'interroge sur les critiques des oppositions, notamment à droite et à l'extrême droite, il renvoie finalement tous les partis d'opposition en cette heure grave à une forme d'union sacrée. Je le cite encore, c'est un sujet sérieux qui ne devrait souffrir d'aucune instrumentalisation politicienne.
David Revaud-Dallone du JDD, puis notez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera sur Europe 1 lundi matin, invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Et nous, à 8h15, nous serons avec Nathalie Elimas, secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, justement pour parler de cet acte ignoble de Conflans-Sainte-Honorine. C'est la première prise de parole du gouvernement sur Europe 1. 6h07, imaginez les Champs-Élysées à Paris, la Grand Place de Lille, la Place du Capitole à Toulouse, entièrement vide, sans aucun bruit à 21h. C'est le genre de scène auquel ont assisté certaines personnes hier soir.
En Ile-de-France et dans 8 autres métropoles, les déplacements désormais sont donc interdits entre 21h et 6h du matin. Le couvre-feu sanitaire concerne 20 millions de Français, un tiers des Français qui vont donc devoir vivre avec pendant au moins 4 semaines. Mais quitter ses amis dès le début de la soirée, pour certains, c'est impossible. Alors on cherche des parades. Ève Roger en a recensé quelques-unes.
Il y a la solution la plus évidente, remplacer les dîners entre amis par des déjeuners ou des brunchs le week-end. Alors pour les jeunes parents comme Clémence, ce plan B présente des avantages et des inconvénients.
C'est toujours plus sympa le soir parce qu'il y a un côté un peu festif, on peut boire un peu d'alcool et c'est moins le cas en journée. Et après, on essaye de positiver et de se dire que c'est sympa aussi de se voir la journée avec les enfants. Et ben, on n'a pas besoin de prendre de nounou, ça fait des économies.
Plus élaboré et un peu plus régressif aussi, le retour des soirées pyjama pour le groupe d'amis de David. Rendez-vous à la apéro vers 20h pour un package soirée plus nuit chez lui, tout est déjà prêt.
Moi j'ai déjà fait la proposition de le faire chez moi parce que j'ai un appartement assez spacieux, j'ai déjà anticipé et je suis allé acheter un matelas 2 places et un matelas 1 place, ce qui fait avec mon lit et mon canapé 7 couchages.
Autre option, baptisée le brunch soirée. Le rendez-vous est fixé à midi cette fois sur la table thé ou café et puis vers 15h léger glissement vers l'alcool suivi d'un au revoir autour de 20h.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe.
Ce couvre-feu sanitaire vise bien sûr à freiner l'épidémie dont les courbes sont toujours inquiétantes. 32 000 contaminations ces dernières 24 heures, c'est un nouveau record.
Aux États-Unis, des milliers de femmes ont manifesté dans le pays pour s'opposer à la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême, une femme choisie par Donald Trump pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg qui est décédée mi-septembre.
En cyclisme, il ne sort plus qu'avec son maillot arc-en-ciel sur le dos. Julien Alaphilippe vise une nouvelle victoire aujourd'hui.
Le Français va enfiler sa tunique de champion du monde sur le Tour des Flandres, une course mythique qu'il n'a jamais courue, Axel May.
En France, il y a Paris-Roubaix. En Belgique, il y a les monts pavés du Tour des Flandres. Dans ce calendrier sportif chamboulé par le coronavirus, le Ronde, son nom flamand, arrive cette année en fin de saison. Et c'est avec son maillot de champion du monde que Julien Alaphilippe s'apprête à découvrir la course. Sans avoir la pancarte de favori, il se présente plutôt dans le rôle d'outsider de luxe. Car pour briller sur le Tour des Flandres, devenir un spécialiste, un vrai flahut, comme on dit, il faut l'expérience du parcours. Et Julien Alaphilippe le sait.
C'est toujours une course que j'ai suivie derrière la télé. Elle m'a toujours donné envie, donc je suis très content de faire partie de l'équipe cette année, même si je pense que ça sera un peu spécial sans le public, mais voilà, ça fait partie des conditions en ce moment.
Le public est en effet invité à rester à la maison en raison, bien entendu, de la situation sanitaire. Ce Tour des Flandres, un autre champion français va le courir pour la première fois. Romain Bardet, remis de sa commotion cérébrale survenue lors de la Grande Boucle, il va disputer à presque 30 ans la dernière course de sa carrière sous les couleurs de son équipe de toujours, AG2R La Mondiale, avant de découvrir l'an prochain une formation étrangère, Sono Web.
Axel May, en football, l'OM se rassure. Les Marseillais ont battu Bordeaux hier soir 3-1. Reims, en revanche, continue d'inquiéter. Les Rémois ont perdu face à Lorient. Ce soir, il y aura 6 rencontres, dont le derby du Nord, Lille-Lens, qui se jouera à huis clos.
Et oui, huis clos et couvre-feu. Couvre-feu, on en parlait tout à l'heure. Couvre-feu sanitaire pour 20 millions de Français. Il y aura évidemment des conséquences pour le milieu de la culture.
Et notamment sur les théâtres. Après le confinement et les jauges réduites, c'est un nouveau coup de massue. Diane Chénaudin.
Un chiffre d'affaires divisé par 7, des annulations de dates en cascade, une rechute de la fréquentation de 60% depuis que Lyon est passé en zone d'alerte maximale. Autant dire que maintenant, avec le couvre-feu, c'est un énième coup très dur pour ce producteur de spectacle, Éric Gautret, qui est aussi directeur d'une troupe de théâtre à Lyon.
Donc là, ce qu'on vient d'acter là, c'est que la saison 2020-21, elle va être très perturbée, voire complètement inexistante. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre à mal une filière à qui on va demander pendant à peu près 20 mois de travailler sans presque pas de chiffre d'affaires. Donc il est urgent de se mobiliser de manière pratique, c'est-à-dire que les aides redescendent, parce que sinon on va faire mourir des lieux, on va faire mourir des gens qui ont tout développé sur leurs fonds propres, qui n'ont jamais eu d'aide et qui aujourd'hui se retrouvent très très pénalisé, alors qu'il n'y a pas eu un théâtre en France où il y a eu un cluster. Donc c'est dur ça, c'est dur à vivre.
Ce producteur espère donc des aides rapides de l'État, car si ça continue, il ne pourra plus payer ses comédiens et risque la faillite.
Diane Chénaudin et la survie des théâtres du monde de la culture en général, on en parlera longuement ce soir sur Europe 1. De 18h à 20h, Wendy Bouchard sera en théâtre en direct du théâtre du Rond-Point à Paris, en direct et entourée de nombreux invités.
Ouais, et de Jean-Michel Ribes, bien sûr, le patron du théâtre du Rond-Point. Merci, c'était Marguerite Lefebvre, il est 6h12.